Ok, Novchka. On commence. On voit creuser, 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 creuser. Ensuite, on voit comme des grands tissus, comme des grands draps, des grands tissus mis sur les champs comme pour les protéger, comme si on avait creusé, labouré, mis en jacquard. Et qu'on venait ensuite mettre quelque chose comme un filet, comme un tissu plutôt, quelque chose de tissé. Mais on voit que c'est comme une image de paysanne qui se multiplie. C'est-à-dire comme si cette identité, l'identité de cette femme paysanne, se démultipliait. Comme s'il y avait des identités, mais qu'il y avait quelque chose de très similaire dans l'individualité. Et dans la singularité, comme si on ne voyait presque pas cette singularité. Un peu comme quand, je ne sais pas, comme des miroirs qui multiplient une image qui se multiplie comme ça, comme avec, comme un effet d'optique. Comme un effet d'optique, à la fois, oui, enfin. C'est drôle, ça revient presque sur la multiplication des tâches, et on voit aussi que, à la fois, elle plante, elle couvre, et à la fois, on la voit aussi comme une nourrice, comme quelque chose de très, comme si elle donnait à manger un enfant, qu'elle plantait à manger, qu'elle faisait à manger. Il y a quelque chose de l'ordre de, quelque chose circulaire, et d'aussi, oui, de nourricier. Le corps est là pour fonctionner un peu comme mécaniquement. On sent très peu la singularité, l'individualité, même comme si on n'avait pas tout à fait accès aux émotions et aux sentiments. Il y a quelque chose d'extrêmement mécanique. Mais au-delà de cette mécanique, en avançant, on sent le soleil chauffer d'abord la peau, parfois brûler la peau. On sent le froid gercer les lèvres. On sent une main réchauffer une autre main. On sent comme une femme, oui, pris dans un coin, comme un homme qui la prend. On sent beaucoup de silence devant, dans les champs de blé. Je voudrais des œufs, car nous ne les produisons pas nous-mêmes. On entend une calèche, juste des chevaux, avec une sorte de carriole derrière, de longs chemins, le froid, la pluie, le retour, la presque nuit, la lampe à huile, l'homme qui écrit, comme s'il écrivait des contes liés à la monnaie. Une figure autoritaire, les enfants sont couchés, on y mange de la soupe. La maison, elle, est faite de colombage et une vitre s'est cassée après le mariage. La maison n'est pas tout à fait étanche. L'homme est plus âgé et la femme a des sœurs. Au réveil, on voit comme à travers, comme des vitres un peu givrées. C'est clairement l'hiver. Là, on voit plutôt des champs recouverts de neige. Le matin, il faut rallumer le feu. On sent que les chaussures sont en bois, en tout cas pour circuler dans la maison. Elle a comme un petit paquet de lavande, mais comme dans un tout petit bourse, comme dans un tout petit, dans une petite bourse, avec une sorte de petit ruban bleu. De la lavande séchée. On dit que ça sent les pieds et que les odeurs sont très fortes et que ça lui permet de s'évader, plus vers le sud, de sentir autre chose comme de sentir un ailleurs. Il faut se nourrir encore. Comme se nourrir soi-même, nourrir plusieurs enfants. Par son propre corps, en préparant le pain. Puis, il faut aller nourrir les animaux. Remplir les mangeoires, bien se couvrir. Pendant l'hiver, on n'a plus trop à s'occuper de la terre, mais les animaux ont toujours besoin de soins. On va traire le lait des chèvres et des vaches. On ne prend pas le lait des cochons. Le lait est chaud, réchauffe les mains. Il réchauffera aussi le cœur des petits-enfants. L'intérieur du corps est chaud, comme le lait est chaud. On fait aussi sur le feu chauffer de l'eau. L'homme qui est là est plus âgé, celui qui faisait les comptes. Il ne paraît pas être le mari. On dit que tout est très lié à la production des choses. Par exemple, elle a entendu parler de là où était produit le sucre. Elle sait qu'il y a d'autres contrées. Elle se demande à quoi cela ressemble ailleurs. Puisqu'elle sait qu'il y a un ailleurs, elle sait qu'il y a des parfums. Elle voit aussi qu'il existe d'autres toilettes, des toilettes vestimentaires. Elle a toujours beaucoup aimé le bleu pâle, qui tire un peu vers le violet. Elle voit des dames. Elle est déjà allée en ville. Plus jeune, elle a nourri des enfants, des femmes de la ville. Elle a parfois entendu de la musique par des enfants qui l'apprenaient, la musique. Le monde qu'elle connaît est constitué de bribes qu'elle n'arrive pas vraiment à rattacher les unes avec les autres. Elle a une compréhension, disons, incomplète du monde. Elle peut imaginer, mais elle ne peut pas raccrocher tous les wagons entre eux. Elle ne pose pas beaucoup de questions. Elle a déjà vu de la peinture. Cela l'impressionne beaucoup. Plus que la musique, dit-on. Elle ne questionne pas sa place. Elle en vit sans jalousie. Et elle aime se balader un peu plus longtemps que prévu lorsqu'elle doit faire une course. Elle n'est pas idiote. mais elle est si peu bavarde que les gens en doutent. Elle a une grande compréhension du monde des vivants ou du monde vivant et s'entend mieux avec un cheval qu'avec un homme bavard. Aujourd'hui, elle trouvera que les gens parlent beaucoup, beaucoup trop. Elle ne pourrait pas suivre le fil de leurs pensées. Elle en sera submergée. Même si les flux de paroles sont ou seraient, selon elle, très vides. Elle touche, elle sent. Elle sait quand les animaux ont de la fièvre, quand les enfants ont de la fièvre, quand quelque chose les perturbe. Elle est attentive aux mouvements, aux intonations du corps. Elle sait utiliser les plantes. Sa mère n'est pas bien bavarde, mais est autoritaire. De la fratrie, c'est la première. Elle est en responsabilité. Elle a toujours été responsable et a toujours fait les choses en silence. Elle peut tuer les animaux, les petits animaux, mais elle pose toujours un baiser sur leur front avant de les tuer. Un jour, elle a dû tuer un canard qu'elle a séparé de notre canard. Et elle a senti comme la dépression du canard encore vivant qui avait été séparé de sa moitié. Et celui-là, ce dernier, elle n'a jamais pu le tuer. Elle a eu comme une histoire d'amour avec cet oiseau. Elle le prenait dans ses bras. Il posait son cou et son bec au creux de son épaule. Elle le câlinait. Un jour, alors qu'on devait le vendre, cet oiseau, il coûtait très cher, cet oiseau. Elle a marché dans la forêt, l'oiseau dans ses bras. L'oiseau ne branchait pas. Elle l'a emmené comme sur un cours d'eau. Il était très tôt. Et elle lui a dit de s'en aller. L'oiseau, effrayé, voulait rester à ses côtés. Tous les matins, elle allait la voir. Et un jour, il n'était plus là. Cela a fait toute une histoire. Elle a dit que l'oiseau s'était enfui. Là, comme dans ses rêves, on voit comme un grand tissu bleu, comme le bleu qu'elle aime. Dans ses rêves, le canard revient, celui qu'elle a dû tuer. Elle le tue à nouveau sur ce grand tissu bleu qui ressemble à du satin ou à de la soie. Et donc, il y a du rouge sur ce bleu, où c'est presque un peu comme un marron ou un grenat très foncé. Comme si elle voulait honorer ses morts et faire comme une cape à ce canard mort. Comme une belle mort. Et en même temps, il y a quelque chose d'indécent et d'un peu comme si pour elle, c'était comme une forme de luxe. On avait tué ce canard et elle voulait faire de cette mort quelque chose de luxueux. Et en même temps, il y a de l'indécence dans ce luxe. Oui, elle se sent un peu bourreau. Ça le met mal à l'aise. On dit qu'elle a déjà fantasmé comme d'avoir des animaux sur elle. Là, on voit juste des chats ou des chiens. Non pas faire l'amour avec des animaux, mais avoir la chaleur de ces animaux sur elle. Comme si les animaux étaient plus chauds que les hommes. Elle a un peu senti la chaleur des hommes. Son mari n'est pas mort. Mais il est parti vers le sud depuis bien longtemps. Elle est seule dans sa couche. L'homme qui la prend de temps en temps n'est pas son mari et ses ébats, dit-on, servent plutôt de monnaie d'échange à des dettes, comme dû à, comme aux mauvaises récoltes d'une saison passée. Elle est prise par cet homme un peu bédonnant, juste par la jupe soulevée. Presque souvent debout. Les hommes ne lui paraissaient pas dignes de confiance, souvent les femmes non plus. Elle est très détachée du monde, des humaines, émotionnellement, même des enfants. Le père, le sien, est mort il y a longtemps. Et c'est peut-être le seul, la seule personne pour laquelle elle a ressenti de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse, de l'intérêt. Le monde des humaines ne l'a pas convaincue. Les femmes, les hommes non plus. Son mari n'est pas un mauvais homme, mais elle le trouve vide. Elle arrive à voir le vide, le plein. Chez les animaux, finalement, aussi dans les plantes et dans les êtres humains. Son mari est vide, il ne pense à rien. Les humains qu'elle a rencontrés font pour elle soit des choses superflues, soit des choses mécaniques. Elle a un rapport très lointain à la religion, même s'il a une forme, dit-on, de spiritualité chronique. Les cheveux des herbes hautes, ou les herbes hautes comme des cheveux, sont pour elle plus sensuels que les poils qui recouvrent la bédane transpirante de la couenne des hommes qui la martèle. Pendant l'été, parfois, elle se couche nue dans les bois. Elle dégrappe ses habits de coton et se pose sur la mousse humide. Son mari ne la comprend pas, mais ne cherche pas vraiment à la comprendre et ne s'aperçoit donc pas de sa fondamentale différence. Elle est très secrète, mais est bonne à toutes ses tâches. Il se dit « Ma femme est peu bavarde. » Elle ne pose que très peu de commentaires sur la vie. Il ne connaîtra jamais rien de ses aventures nocturnes. Il ne connaîtra jamais rien de ses histoires d'intimité fondatrice. Il ne connaîtra jamais rien de sa spiritualité exultrice, exultoire, ou qui fait exulter. Il n'aura jamais accès à cette porte fermée. Son corps est pourtant tout ouvert, ouvert à tous les vents, ouvert aux autres corps, ouvert aux autres mains. Mais à personne il n'appartient.